mon titre, c'est une foi déterminée devant l'opposition. Une foi déterminée devant l'opposition. Prions. Prions ensemble. Alors, Seigneur, j'en profite d'abord pour te remercier parce que tu as béni Salah et Jean-Paul qui étaient en retraite cette semaine, une longue retraite, et ils ont eu vraiment beaucoup d'encouragement. Disposer nos cœurs, notre attention pour retenir quelque chose de constructif, des paroles qu'on va entendre, surtout de ce qui est écrit dans ta parole, Seigneur, la Bible, pour que ça alimente notre relation avec toi, qui que l'on soit. Merci parce que tu nous as amenés ici ce matin, chacun d'entre nous, puis je prie que chacune des personnes ici puisse retourner dans sa vie, dans son foyer, avec un mot qui va les encourager, qui va les aider et qui vient de toi. Amen. Amen. Alors, écoutez, ça prend une foi déterminée devant l'opposition pour tenir ferme dans un projet qui rencontre de l'opposition. Et quand un leader de groupe réussit à motiver son groupe dans une situation comme ça, et à le suivre dans sa détermination, des choses extraordinaires peuvent se passer. Les faibles peuvent vaincre les forts. Et moi, j'aime un peu l'histoire militaire. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a toujours fasciné. Et j'ai toujours été ému par l'histoire de Winston Churchill, qui a joué un rôle premier ministre, qui était un autre homme qui... finalement, qui se laissait manipuler par les nazis parce que lui, il voulait éviter les conflits à tout prix. Et ça ne marchait pas. Et Churchill, lui, il avait la conviction qu'il fallait éliminer la menace nazie. Et il croyait que l'Angleterre pouvait se mobiliser comme le peuple, mais aussi mobiliser une alliance d'autres pays qui étaient capables de vaincre cette menace terrible des nazis. Et au début, les Anglais vivaient des défaites militaires vraiment écrasantes. Mais, tu sais, sur YouTube, continuez à dire au peuple anglais, puis il y a des discours célèbres qu'on peut même écouter sur YouTube. Ils disaient, « Hey, on va se battre. Même si on est seul, on va continuer à se battre. On ne va jamais se rendre. On peut le faire. » Et sa foi déterminée était contagieuse. Et finalement, les Anglais et leurs alliés, ils ont gagné. Churchill avait eu raison, son projet a marché. Et dans notre texte de ce matin, on va voir une situation semblable. Ça se passe dans la même période à peu près que ce qu'on a vu la semaine passée, c'est-à-dire la reine Esther, roi de l'Empire, après Xerxès, qui était le mari d'Esther. L'autre, après, c'est Artaxerxès. Ils choisissent des noms difficiles à prononcer. Pourquoi? Je ne sais pas. Oui, c'est ça. Mais il y avait un fonctionnaire d'Artaxerxès, du nom de Néhémie, qui était juif, lui. Et puis, Dieu lui donne l'appel, la conviction qu'il doit retourner à Jérusalem, rebâtir la muraille et la ville qui ont été détruites par la guerre. Le roi, et Dieu bénit son projet, sa conviction, parce que le roi, qui appréciait beaucoup les services de Néhémie, c'était les chansons, c'est-à-dire le goûteur de vin, qui... C'est vraiment un fonctionnaire important, le goûteur du vin, parce que c'est le gars qui évite les empoisonnements et les meurtres du roi. Donc, c'est quelqu'un, s'il y a une personne avec laquelle le roi il a vraiment, vraiment, vraiment confiance, c'est son goûteur. Parce que si tu veux assassiner le roi, tu passes par le goûteur. Alors, il faut vraiment que le goûteur soit un homme de confiance. Et ça, c'était Néhémie. C'était les chansons. Elle lui donne la permission de partir et de retourner à Jérusalem pour organiser la reconstruction. Néhémie avait plusieurs belles qualités de leader, et sa plus grande, c'est qu'il avait vraiment la foi en Yahvé, le Dieu d'Israël, le Dieu vivant, celui qui avait promis que les Juifs allaient retourner dans la terre promise. Et il savait que Dieu lui avait confié le projet, et il savait que les prophètes avaient promis. Néhémie y croit vraiment, puis c'est sa plus grande force. Alors, le livre de Néhémie raconte l'histoire de la reconstruction du mur, mais dans sa déterminée de Néhémie, qui fait toute la différence. Mais dans cette histoire, si vous lisez le livre au complet, il y a, je pense, 13 chapitres, et vous verrez que c'est comme, il y a vague après vague de problèmes dans le projet. Puis ça vient surtout de l'opposition d'êtres humains qui ne veulent pas que ça se passe. En particulier, le nouveau gouverneur qui s'appelle Sanballat. C'est le nouveau gouverneur et, en fait, Sanballat, c'est un juif, semble-t-il, mais lui, il ne croit pas dans toutes ces affaires-là. Puis lui, ce qui l'intéresse, c'est la nouvelle situation où est-ce que lui, il a le pouvoir. Il ne veut pas le retour, ils ont été déportés, revenir, reconstruire le mur. Et Sanballat devient l'opposant numéro un au projet. Alors, lisons maintenant l'histoire qui est dans Néhémie chapitre 3, versets 33 à 38. Ça, c'est dans Second 21, mais dans la traduction plus ancienne, pour une raison, il y a une raison, mais c'est 4, versets 1 à 6. Donc, les nouvelles traductions, maintenant, on s'enligne sur la manière que les Juifs mettent les versets, et donc ça a changé même dans les Bibles françaises. Alors, Néhémie 3, 33 à 38, ou maintenant, 1 à 6, dépendamment de l'ancienneté de votre Bible. Alors, on va lire maintenant, et écoutons bien. C'est un épisode dans les étapes de la reconstruction. Lorsque Sanballat a appris que nous étions en train de reconstruire la muraille, il s'est mis en colère et s'est montré très irrité. Il s'est moqué des Juifs et a dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie. C'est un peu comme s'il avait organisé une parade militaire juste pour décourager les Juifs qui reconstruisaient le mur. Il dit ceci au micro. Ben, il n'y avait pas de micro à l'époque, mais vous comprenez. Offrir des sacrifices, vont-ils finir leur tâche dans la journée? Vont-ils redonner vie à des pierres ensevelies sous des tas de... Oh, qu'est-ce qui se passe là? Il manque une ligne, hein? Sous des tas de poussière réduite en cendres. Tobija, l'ammonite, était à côté de lui. Il a dit qu'ils construisent seulement leur muraille de pierre. Si un renard grimpe dessus, il la fera crouler. Ici, il y a une prière maintenant de Néhémie. Écoute notre Dieu, avec la dépouille, on nous traite. Fais retomber les insultes sur leur tête et livre-les au pillage et à la déportation. Ne pardonne pas leurs fautes et que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi, car ils ont provoqué de front ceux qui construisent. Nous avons continué à reconstruire la muraille de telle sorte qu'elle soit partout consolidée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple a pris ce travail à cœur. Amen. À l'origine, l'histoire racontée dans le livre de Néhémie sert à mettre en valeur la foi puis la détermination de Néhémie. Comme tu dois avoir cette même passion pour la loi, pour la terre promise, pour le temple et ainsi de suite. Mais en fait, Dieu avait un autre but qui a été révélé plus clairement dans la venue de Jésus, dans la nouvelle alliance, qui est la même chose, et dans laquelle nous sommes et nous vivons aujourd'hui. Un but plus grand et plus important. Et puis ce but, c'est que, En envoyant Jésus, donc Dieu le Fils devenu homme, Dieu envoie un nouveau Néhémie pour, en quelque sorte, bâtir les murs d'un nouveau temple, puis d'une nouvelle ville. Groupé. Puis cette ville, c'est nous. Puis ce temple, c'est nous. On est groupé autour de Jésus et on forme une construction spirituelle qui est nouvelle. Et ça, c'est le fun parce que ça te concerne toi, puis ça te concerne moi. Puis c'est maintenant. Comme Winston Churchill et comme Néhémie, Jésus, qui est le nouveau Néhémie, il est ressuscité et il sait que le succès est déjà gagné. Donc, il travaille dans ta vie pour construire cette nouvelle construction avec une confiance déterminée. Il va l'accomplir. Oh, merveilleux! Qu'est-ce que je fais? Je continue comme ça. Puis est-ce que j'éteins celui-là? Ou... Non? OK, parfait. Il peut y avoir de l'opposition. Il peut y avoir des problèmes. Jésus, lui, il est déterminé comme Néhémie. Et puis, il veut, par contagion, te transmettre cette confiance-là. En lisant l'histoire de Néhémie, ce matin, on peut ressortir quatre principes ou conseils que je vous donne maintenant, qui vont s'appliquer à ta foi, à faire avec Jésus dans cette nouvelle situation. Premièrement, fais confiance au bâtisseur. Deuxièmement, réjouis-toi de ta valeur aux yeux du bâtisseur. Troisièmement, identifie ton vrai ennemi. Puis quatrièmement, arme-toi de patience. Je vais relire, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais... Premièrement, fais confiance au bâtisseur. Réjouis-toi de ta valeur. Identifie ton vrai ennemi. Arme-toi de patience. OK. On y va. Allons-y, conseil par conseil. Premièrement, fais confiance au bâtisseur. Était un peuple faible et vulnérable. Mais il faisait confiance à Dieu à travers Néhémie. Ils avaient confiance dans son leadership, dans sa confiance à lui. Et Néhémie leur montrait les pas, les prochaines étapes, leur donnait des ordres. Et on voit que ça marche. Puis à la fin du passage qu'on a lu, il y a deux petites phrases, et c'est Néhémie qui écrit. Il dit premièrement, il constate que malgré tous les problèmes, il dit, on a continué à reconstruire jusqu'à ce que la muraille soit faite à moitié. Puis deuxièmement, il dit, c'est le peuple qui a pris ce travail à cœur. Donc, c'est comme le constat du leader satisfait que l'équipe a fait le travail. En passant, si vous avez un rôle de leader, c'est une belle qualité à avoir. Peut-être c'est vous qui les a motivés, mais il ne faut pas leur dire, c'est grâce à moi que vous l'avez fait. Non, c'est beaucoup mieux de dire, vous avez fait la chose, bravo, et mettre l'accent sur leur mérite à eux. Mais comme j'ai évoqué tantôt, dans notre situation, Jésus était sur la terre, il a dit à ses opposants, d'une manière assez ambiguë, il parlait du temple de Jérusalem, qui était en gros celui que Néhémie et ses contemporains avaient reconstruit. Et puis, ça, c'est devenu très, très gros parce que Hérode a rajouté, mais Jésus il a dit, « Détruisez ce temple et en trois jours, je le rebâtirai. » Puis, il a comme joué sur les symboles parce qu'il parlait en fait de son corps. Son corps, sa vie allait être détruite par la crucifixion, mais il a été ressuscité et puis à partir de ce constat, un nouveau temple dont nous faisons partie allait commencer à être construit à partir de ce moment-là. Et donc, on est là-dedans, comme j'ai dit tantôt, puis c'est Jésus le bâtisseur. Juste pour vous prouver ça, regardez ce que dit Pierre, un des premiers prédicateurs de l'Évangile, et il y a 2000 ans, un ami à Jésus, et lui, voici ce qu'il écrit aux premiers chrétiens. Il dit, « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, laisse-toi édifier pour former une maison spirituelle. » Laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Alors, si vous voulez la référence dans votre Bible, c'est dans 1 Pierre chapitre 2, les versets 4 et 5. Mais vous voyez comment Pierre, il utilise les images de Jérusalem, puis du Temple, puis il dit, « Vous, les chrétiens, laissez-vous bâtir, hein? Et vous êtes les pierres, sauf que vous êtes des pierres vivantes, comme des pierres avec des qui se déplacent, avec des cœurs qui battent. Et vous êtes comme Jésus, qui lui aussi est une pierre vivante. Donc, approche-toi de Christ. Laisse-toi édifier. Jésus veut te reconstruire. Il veut prendre ta vie. Il a pris ta vie. Si tu l'as reçue comme ton Seigneur et Sauveur, tu es né de nouveau. Tu es né dans cette nouvelle vie où Jésus est en train de te travailler. Puis, quand Pierre dit « édifier », il y a un travail extérieur et un travail intérieur. Je crois que j'ai encore un laser, oui. Alors, des maisons coloniales de la Nouvelle-France, ça, et on en voit par-ci, par-là, même dans l'ouest de l'île, et ce n'est pas des briques qui sont identiques, c'est des pierres qui sont adaptées les unes aux autres. Chacune garde sa personnalité, hein? Mais elle est quand même adaptée pour le mur. Donc, il y a un travail sur la brique et il y a un agencement entre les briques, puis il y a un travail intérieur. Et c'est ce que Jésus est en train de faire avec toi, le mortier ici qui permet que les briques sont unies. Ça pourrait être quoi dans le travail de Jésus? L'amour, oui. Pardon? Ben ouais, l'amour, ben ouais, oui. C'est le Saint-Esprit, l'amour qui nous apprend à nous aimer les uns les autres. Fais confiance au maître. Il est en train de construire un mur, puis c'est un expert. Et sois confiant que ce que Dieu a commencé dans ta vie, il va le terminer. Puis ça nous amène à notre deuxième compte de Jésus. N'oublie jamais que si tu te sens sans valeur, la vérité, c'est que tu es d'une valeur infinie aux yeux du bâtisseur. Peut-être à cause de ce que tu as vécu dans ta vie, tu te dis, j'ai perdu ma valeur. C'est une erreur, c'est un mensonge. Il t'a choisi tel que tu es. Si les gens se moquent, ce n'est pas grave. Peut-être que quelqu'un t'a déjà dit, toi, tu vas devenir une maison. Tu as des beaux rêves, tu penses que tu vas devenir une meilleure personne avec ta nouvelle religion. Eh bien, continue à rêver. Mais les gens peuvent se moquer, ce n'est pas grave. Jésus a la victoire et il a changé tellement de personnes autour de nous, il va te changer toi aussi, et il a la patience pour le faire. Il voit cette valeur en toi. Peut-être que tu vois ta vie comme un échec, et peut-être que tu as fait des erreurs, même depuis que tu es chrétien. Peu importe la raison, Il t'a mis dans son mur et il est en train de te travailler. Alors ce matin, remercie Dieu pour cette valeur que Jésus voit en toi puis qu'il voit toujours en toi. Il voit les qualités qu'il a mis en toi, il voit tes faiblesses et puis il est en train d'arranger ça pour que tes qualités sortent et que tes faiblesses soient vaincues. Parfois aussi, avec Jésus, ta faiblesse, c'est une faiblesse du micro. Ah ben oui, c'est vrai, on a changé. C'est bon. Tu peux demander à Jésus, utilise ma faiblesse pour aider d'autres briques dans le mur. Hein, c'est à ce point-là. J'ai entendu un témoignage récemment qui m'a beaucoup touché. Donc, deux frères qui ont décidé de s'entraider avec leur faiblesse. Et écoutez bien ça, ils ne sont pas dans notre église, alors je ne dirais pas de nom, mais vous ne les connaissez pas. Mais ces deux frères, qui en fait, sont dans deux églises différentes et qui ont découvert, parce qu'ils étaient amis, « Hey, on a la même faible fréquent qu'on pense. » Ils ont été exposés, comme beaucoup aujourd'hui, aux images sexuelles et pornographiques à l'Internet. Et la faiblesse les a gagnés et ils ont succombé et sont devenus un peu faibles par rapport à ça, vulnérables par rapport à la pornographie à l'Internet. Et ils s'en sont parlé, ils ont dit... Tous les deux, on ne veut plus le faire, mais c'est plus fort que moi. Alors, ils ont comme fait une alliance ensemble. On va s'appeler problème, on va s'entraider, on va être redevables l'un à l'autre, et sans se juger, parce qu'on a le même problème, et ils ont vu des progrès. Puis Jésus les aide là-dedans. Alors, peut-être que ça vous choque, mais hey, on est faible. Vous savez que les statistiques montrent que c'est un problème beaucoup plus fréquent qu'on aimerait penser. Et c'est impossible presque d'en parler dans l'Église. Mais là, ils arrivent à faire des questionnaires confidentiels. Il y a des organismes qui font ces études-là. Et ce genre de faiblesse, ce genre de même de te guérir, Jésus va t'aider et c'est peut-être avec l'aide de quelqu'un d'autre que tu vas y arriver. Mais l'idée principale, c'est Jésus voit une grande valeur en toi et remercions-le ce matin pour cela. J'aimerais dire une prière maintenant et puis tu peux prier avec moi, qui que tu sois, et en silence. Répéter silencieusement dans ton cœur les paroles que je vais dire. Et peut-être c'est juste que tu as besoin de remercier Dieu pour la valeur qu'il voit en toi et le travail que Jésus est en train de faire en toi et que tu veux lui donner. Peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ et peut-être que tu veux lui donner et faire partie du mur. Je vais prier, puis je t'invite à prier avec moi. Jésus, merci, parce que si je suis ici, c'est que tu as vu ma valeur. D'ailleurs, c'est toi qui m'as créé, tu m'as donné cette valeur et tu m'aimes. Et Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon aussi pour mon manque de foi. Je t'invite à continuer ton travail, à faire de moi la personne que tu veux que je devienne. Merci pour ton sang qui a coulé pour moi. Viens à ma vie, sois mon maître. Amen. Est-ce que ça fait du bien? ta confiance au bâtisseur et réjouis-toi de ta valeur. Et maintenant, identifie ton Sanballat. Alors, dans notre histoire, Sanballat, le gouverneur, est l'ennemi de Néhémie. Dans notre situation, on peut dire que c'est Satan, c'est le prince des démons révoltés qui joue ce rôle. C'était le cas aussi à l'époque. Mais en fait, les opposants humains, et il y en a encore aujourd'hui, des gens qui sont contre le développement de ta vie chrétienne, des gens qui sont contre peut-être l'accroissement d'Église comme l'Oasis. Mais pas nous, chair et le sang, ça c'est une ancienne expression biblique qui veut dire les humains. Ce n'est pas contre les humains que nous luttons vraiment, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Paul, en passant, ça c'est Éphésiens 6:12, pour ceux qui veulent relire dans leur Bible. Donc, Dieu a créé les anges, et il y a des anges qui se sont révoltés et qui ont invité les humains, quand ils ont été créés, à les suivre dans la rébellion contre surtout Dieu. Et donc, on a appris, surtout par l'enseignement de Jésus, que quand les humains s'opposent à nous, derrière eux, il y a des forces spirituelles du mal. Donc, il ne faut pas les haïr, eux, mais reconnaître qu'ils sont mus ou influencés par Satan lui-même, ou en tout cas, un démon qui travaille pour lui. De la même manière, si moi, j'ai encore dans mon cœur une parole décourageante, peut-être que quelqu'un a cherché à te décourager, à casser ta foi dans ton cœur. Et puis, c'est Satan lui-même, ou en tout cas, peut-être indirectement par un de ses démons, qui inspire à ton âme de revenir là-dessus. Alors, c'est toi-même qui te décourage toi-même, mais n'oublie pas, il faut chasser ça parce que c'est souvent des forces dans le monde des ténèbres qui nous influencent, qui essayent de nous décourager. Alors, il faut identifier nos vrais ennemis. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Chasser ses pensées. Un peu comme Néhémie, qu'il a reçu des moqueries, il a reçu des paroles méchantes. On voit dans sa prière, dans le texte, et il dit, « Seigneur, punis-les, nous, on va juste continuer à construire. » Il ne s'est pas bandré avec ça. Nous aussi, il faut continuer à croire, chasser les paroles décourageantes qui sont des mensonges. Une fois, quand j'étais jeune chrétien, j'avais une bonne amie du secondaire qui on se réunissait toujours, nos amis du secondaire, et puis ça faisait un an ou deux que j'étais devenu un chrétien ou un Jesus fanatique, comme eux, ils pensaient, mes amis. Et puis, elle alliée là-dedans. Et elle n'était pas encore devenue chrétienne. Et en fait, elle voulait comme m'aider. Elle dit, tu sais, Marc, tes amis, là, on t'aime encore, mais tu sais, il faut que je te dise, on a hâte que tu sortes de ta rêverie, que tu redeviennes comme tu étais avant. Donc, pour eux, ma relation avec Christ, c'était une rêverie, puis il fallait que j'en revienne. Et ça fait plus que 30 ans, puis je suis encore dans mon rêve. Et tristement, cette amie-là est déjà décédée, elle a eu le cancer, elle est décédée. Moi, je suis encore là dans mon rêve avec vous, et le rêve comme ça peuvent reviter, bien, il a toujours été. Mais c'est sûr que des paroles comme ça peuvent revenir quand ça va mal dans notre vie chrétienne. Et
Et Néhémie nous montre l'exemple, et Jésus insiste là-dessus. Chasse ces pensées-là, sache que c'est Satan qui veut te décourager. Par contre, la prière de Néhémie, il faut quand même l'adapter un peu, parce que lui, il dit à Dieu, « Ne pardonne pas, mais punis-les. » Et maintenant, à la lumière de la croix de Christ, il faut adapter cette prière qui s'oppose à l'Évangile. Seigneur, oui, tu vas juger leurs péchés au jugement dernier et ça ne sera pas drôle et ça ne sera pas beau, mais Père, par ta grâce, amène-les à se repentir à la croix de Christ avant ce moment-là. Parce que moi aussi, j'étais dans les ténèbres avant, puis c'est par ta bonté que je suis venu à voir les choses autrement. Je le prie pour eux aussi. C'est pour ça que Jésus dit, priez pour ceux qui vous persécutent. C'est un peu la même prière, c'est-à-dire, Dieu, amène-les à réaliser que c'est grave leur erreur, qu'ils sont influencés par Satan, sinon sans le savoir, mais amène-les à la croix, parce que sinon, on sait, Seigneur, que ça sera le jugement et ça ne sera pas drôle. Et toi aussi, ce matin, sache que l'appel de Jésus, c'est pour maintenant et c'est sérieux. Viens à lui, confesse tes péchés, invite-le dans ta vie, viens faire partie de son mur. Et le dernier conseil que j'ai trouvé dans le livre de Néhémie, dans ce texte, arme-toi de patience. Arme-toi de patience dans le travail que Jésus fait en toi pour te faire prendre ta place dans le mur et être une bonne pierre. La stratégie de Néhémie, c'est qu'il y va par étapes, il y va pas à pas, puis parfois c'est des petits pas, parce que les ressources humaines sont limitées, et puis il y a des vagues d'opposition qui changent, qu'il faut s'adapter aux obstacles. Néhémie est intelligent. Il est intelligent. Il coupe ça par petits pas. Moi, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée au niveau des étapes dans un projet par rapport à la gestion du temps, qui est une de mes faiblesses. Peut-être vous avez remarqué, peut-être pas, mais cette faiblesse est encore moi. La gestion du temps Il y a bien des années, j'étais à l'école de théologie et je faisais mes études et je me suis retrouvé un soir tard avec deux travaux à faire pour le lendemain matin. Un court puis un gros. Puis je n'avais pas le choix, il fallait que je les rende le lendemain matin. Un petit travail qui valait moins de points, mais qui était quand même important. Puis un gros travail plus long qui valait beaucoup de points. Et je ne savais pas par lequel commencer. Alors, je suis allé voir mon bon ami David, qui habite maintenant à Seattle, mais peu importe. David, Marc, moi, te connaissant, puis ayant moi-même un peu de sagesse, je trouve que tu devrais faire le petit en premier. Pourquoi? Parce que même si tu vas le terminer tard, tu sais, il y a de meilleures chances que tu le termines, puis ça va te donner un boost d'encouragement pour faire l'autre après. Alors, fais le premier d'abord, le plus petit, puis après ça, fais le long après. Puis j'ai suivi son conseil. Puis vous savez quoi? Ça a marché! Oui. Je l'ai fini vers minuit. J'ai eu un boost d'encouragement. Puis là, l'autre, je l'ai fini, puis je l'ai rendu les deux. J'ai rendu les deux travaux, peut-être vers 9h du matin, le lendemain. Et vous pouvez vous imaginer que c'était pas le fun. Je n'ai pas dormi de la nuit. C'est pas le fun des nuits comme ça. Mais mon projet a réussi grâce au conseil de mon ami. Et on voit dans ce passage, avec Néhémie, il coach ses ouvriers. Et la chose qu'il dit au verset 38, pour ceux qui ont la Bible ouverte devant eux, le verset 38, on voit sa stratégie. La muraille était partout consolidée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Très intéressant comme détail. Ce qu'on va faire, on va garder la muraille comme fermée, là. Comme ça va être un cercle fermé, puis on va arriver à la moitié, puis là, on va arrêter puis célébrer. Il aurait pu dire aux équipes de construction, « Oui, oui, tu vas aller plus vite que les autres, go. Ah, toi, tu as une équipe pas mal rapide, go. » Et qu'est-ce qui serait arrivé, c'est qu'il y aurait eu une muraille avec des bouts de terminés, après ça, des bouts pas faites, des coupures dans la muraille. Une partie, c'est comme un petit muret pas haut, et il y aurait des trous dans la muraille. Et Néhémie, il savait que les ennemis préparaient à faire du vandalisme, à faire de... Et non, il a dit, on va pousser, mais pousser égal. Hein? Et on va faire une muraille qui va rester comme fermée. Et ça va être un boost d'encouragement pour ceux qui verront le résultat. Puis en plus, la muraille, elle va être moins vulnérable. Est-ce que vous me suivez? OK, d'accord. Donc, on pourrait appliquer ce principe au travail d'Église. Et c'est vrai, il faut qu'on pousse égal dans notre œuvre ensemble. Il faut qu'on s'attende les uns les autres. Et des fois, c'est vrai qu'il y a des sœurs, des frères qui se découragent. Ils se découragent avec les autres. Et puis, c'est pas bon. C'est pas bon. On doit tous apprendre à travailler ensemble, à se fortifier les uns les autres. Mais dans ta vie personnelle aussi, peut-être que tu es un peu découragé parce que tu penses que le travail que Jésus fait en toi en ce moment, c'est plus gros que ce qu'il veut vraiment. Peut-être que tu es quelqu'un comme Auguste, c'est un frère inventé, que j'ai inventé. Auguste cherche du travail. Puis peut-être qu'Auguste, il travaille. Il se dit, ce que Jésus, il veut, c'est que rapidement, j'aie un bon travail, bien payant, pour que là, je puisse être un bon chrétien dans l'Église. Mais c'est peut-être pas ça que Jésus est en train de travailler aujourd'hui. Peut-être que Jésus est en train de travailler aujourd'hui quelque chose de plus modeste. C'est, Auguste, je veux t'apprendre à être patient et à vivre dans la victoire aujourd'hui, pendant que tu cherches du travail. Aujourd'hui, pendant que tu attends que la porte s'ouvre. Et peut-être que je veux que tu développes cette patience, cette quiétude, cette douceur avec les autres, même si tu vis le stress financier et le stress de la vie. Que Jésus travaille en ce moment, je vais me concentrer à vivre dans la foi, dans l'attente. Je vais faire confiance à Jésus parce que tout pouvoir lui a été donné et j'aurai ma job quand j'aurai ma job. Amen. Eh bien, il va vivre cette victoire-là. Donc, arme-toi de patience dans l'étape que Jésus travaille en toi maintenant. Arme-toi de patience et découvre la victoire dans cette étape-là. Elle est peut-être plus simple que tu penses. Arme-toi de patience, demande-la ce matin. Ah, OK. On a vu que j'ai assez parlé. Je vais résumer. On a vu Néhémie qui a construit le mur. 4 conseils qui nous viennent de Néhémie, mais pour notre situation de chrétien de Montréal, de notre époque. Premièrement, fais confiance au bâtisseur Jésus. Deuxièmement, réjouis-toi de la valeur que Jésus a vue en toi et voit en toi. Troisièmement, identifie ton vrai ennemi. Ce n'est pas toi-même, ce n'est pas les autres, c'est Satan. Quatrièmement, arme-toi de patience. Et ce matin, on va se réjouir, on va continuer à louer Dieu maintenant, qui vient du Nouveau Testament, un beau texte qui célèbre cette victoire, cette œuvre de Dieu qui est déjà victorieuse dans nos vies. C'est dans Romains, chapitre 8, versets 31 à 37. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Amen! « Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qu'il l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les intercèdera? Christ aimant bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse? Serait-ce l'angoisse? La persécution? Vous pouvez répondre non, hein? La persécution? Non. La faim?
Non.
Le dénuement?
Non.
Le danger?
Non.
L'épée?
Non.
La perte d'un emploi?
Non.
Un problème avec mon conjoint?
Non.
OK. Un problème avec un de mes enfants?
Non.
OK, vous avez compris, je pense. De fait, il est écrit, c'est à cause de toi. Les chrétiens persécutés, les juifs persécutés ont prié cela dans le passé et même aujourd'hui. Mais au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Amen!
Amen.
Est-ce qu'on est heureux?
Amen.
J'invite les musiciens à venir nous conduire dans la joie.